Regarde les murs de la prison du mitard, t'es là. Et si tu grattes, tu verras, ils sont verts. Vert, c'est la couleur de l'espoir.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs libres ou incarcérés, enchaînés ou déchaînés, coupables ou innocents.
Bonjour Romain.
Bonjour David.
Aujourd'hui, nous parcourons des prisons d'État, celles dans lesquelles des gouvernements autoritaires jettent des femmes et des hommes pour leurs opinions politiques.
Ces prisons-là et leurs symboles ont d'autant plus inspiré les artistes du monde entier qui n'ont pas hésité à braver la censure, quitte à se retrouver eux-mêmes derrière les barreaux.
Et on commence par un prisonnier virtuel, condamné mais jamais incarcéré, au grand dam de la petite amie de Didier Vampasse. Le chanteur punk dit avoir composé la chanson uniquement pour tester les limites de notre liberté d'expression. À l'époque, en 2006, seules deux radios la passent, Oui FM et Le Move. On pourra désormais dire qu'elle a été diffusée sur France Culture.
C'est une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison.
Les vents passent, Chirac en prison. En 1956, Jacques Chirac était à l'ENA. Il aurait donc pu éviter de faire la guerre d'Algérie. Mais partisan de l'Algérie française, il se porte volontaire et rejoint le régiment des chasseurs d'Afrique. En 1956, la guerre sévit déjà depuis 2 ans et le FLN cherche à se doter d'un hymne qui n'est pas « 1, 2, 3, viva l'Algérie ». Ramdan Abban, surnommé l'architecte de la Révolution, fait appel au poète et journaliste Moufdi Zakaria, qui est incarcéré dans la prison Barberousse à Alger. L'histoire voudrait que ce dernier ait rédigé son texte avec son propre sang, à même les murs de sa cellule. Son poème s'intitule « Kassaman ».
Kassaman peut se traduire par « nous jurons ». Nous jurons par les tempêtes dévastatrices qui s'abattent sur nous, par le sang noble et pur généreusement versé, par les éclatants étendards flottant au vent, sur les cimes altières de nos fières montagnes, que nous sommes dressés pour la vie ou la mort, car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez-en témoins. Au passage, l'histoire de la mélodie de l'hymne est assez drôle. La première composition fut confiée à un Algérien, mais les militants du FLN ne la jugèrent pas satisfaisante. ils en demandèrent une autre version à un Tunisien, Mohamed Triki, dont la musique ne fut pas non plus retenue. On se tourna alors vers un Égyptien, Mohamed Fawzi, dont l'air convenait enfin. La version que nous vous proposions fut enregistrée en 1962 par un chœur anonyme de combattants du FLN.
قسما بالنازلات الناحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال العاليات الراسيات نحن قرنا مع حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 نحن جند في سبيل الحق قمنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم تكن تسري فرنسا إذ نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا وعزمنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا.
Qui dit chant dit contre-chant. Et rapport à la guerre d'Algérie, nous avons dégoté une histoire incroyable, celle d'un groupe de musiciens exclusivement composés de détenus, anciens membres de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Du fait de leur identité pied noir, ils se sont trouvés comme nom de groupe Pied Noir Rythme. Aussitôt les accords d'Évian signés en 1962, les Algériens incarcérés en France sont libérés et rapatriés dans leur jeune pays, tandis que les condamnés de l'OAS affluent dans les pénitenciers.
Nous sommes donc à la prison de Saint-Rémy-en-Ré, sur l'île de Ré, en compagnie d'une petite dizaine de musiciens amateurs dont les affinités politiques sont proches de celles des gardiens. Résultat, ils bénéficient de conditions extrêmement favorables. On les dispense de porter le costume carcéral. Ils peuvent librement circuler dans les prisons de 7h à 19h. Un court de tennis leur est réservé. Et pour le plaisir, ils peuvent même boire de la bière, écouter de la musique, en jouer et développer leur propre pellicule photo.
L'un des musiciens est passionné de photos. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'histoire de ce groupe est connue. Car si nous n'avons aucun enregistrement, nous possédons nombre de clichés où on les voit poser, répéter, rigoler et jouer devant les autres détenus. Leur instrument ? Trompette, saxophone, guitare, batterie, violon. Leur style ? On n'est pas sûr, probablement un mélange de jazz manouche et de twist, genre très en vogue à l'époque.
Parmi eux, on trouve donc des détenus tels que Armand Belvisi, membre de l'OAS métropolitaine, qui prépara deux attentats contre le général de Gaulle, mais aussi Pierre-André Delhomme, violoniste et chef d'orchestre, qui participa au putsch d'avril 61 avec les commandos de l'air, et Claude Ten, le trompettiste du groupe, qui fut lui condamné pour le meurtre d'un commissaire de police.
Claude Ten faisait aussi partie du commando mené par le lieutenant Roger De Gueldre. De Gueldre est un militaire qui déserte après le putsch de 61 pour rejoindre l'OAS. Il fonde le commando Delta, l'un des plus violents du mouvement. Il est condamné à mort et exécuté en juillet 62 au fort d'Ivry. Et si l'on vous parle autant de Gueldre, c'est que n'ayant aucun enregistrement de Pied Noir Rythme, il nous fallait bien vous faire entendre un chant OAS.
Ou pas d'ailleurs.
C'est donc l'un des premiers morceaux de Jean-Pax Méfray que nous vous proposons.
Jean-Pax Méfray. Jean-Pax Méfray est un chanteur particulièrement engagé à droite. Très à droite. Il ferait passer Michel Sardou pour un maoïste. Ses tubes se nomment Dien Bien Phu, Les Harkis, La Nostalgérie. Et l'un de ses premiers morceaux est un hommage héroïque à De Gueldre. On vous rassure, du côté des chansons politiques qui encensent des meurtriers, c'est la seule que vous entendrez cette semaine. Mais nous avons estimé, puisqu'elle a trait à un détenu exécuté, qu'elle avait valeur d'archive.
Dans le quartier des activistes, derrière une porte de fer, un officier parachutiste vient de coiffer son béret vert. Je ne vous garde pas rancune, je vous plains. Les mots écorchent les tympans du triste général procureur, tandis que le fier lieutenant se prépare au baroud d'honneur. Prêtres, gardiens et avocats admire avec un grand mutisme la bravoure du noble soldat qui part victime de son civisme. Je ne vous garde pas rancune, je vous plains. 12 fusils des visages, mais ses yeux plus durs que l'acier fixent déjà une autre image. Il ne voit pas ses meurtriers en entonnant la Marseillaise. Il lève la tête et sourit aux 11 balles toutes françaises qui luttent pour lui ôter la vie. Il meurt au 6e coup de grâce et observant ce corps cassé, le procureur au teint de glace entend la voix lui murmurer. Je ne vous garde pas rancune, je vous plains. La cour militaire d'injustice, le 6 juillet 62, a donné ordre à sa milice d'assassiner ce valeureux.
Et on continue ce périple politique auprès du Jean Pax Méfray de la gauche américaine, j'ai nommé Bob Dylan. En 1971, il trempe sa plume dans la colère que lui provoque la mort de George Jackson, l'un des leaders des Black Panthers, abattu dans la prison de Saint-Quentin. Jackson aurait tenté de s'évader avec un revolver que lui aurait fait passer son avocat. D'autres versions disent que le FBI aurait été à la manœuvre pour trouver une occasion légitime de le descendre. Rien n'a été éclairci depuis.
I woke up this morning, there were tears in my bed. They killed a man I really loved, shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground.
La mort de George Jackson provoque une colère sans précédent qui aboutira à la mutinerie et à la répression sanglante de la prison d'Attica dans l'état de New York. Le 9 septembre 71, trois semaines après la mort de Jackson, 1200 détenus se rebellent au sein du pénitencier. Ils prennent 38 gardiens en otage et deviennent maîtres d'une partie du bâtiment. Les prisonniers n'ont qu'une seule revendication, l'amélioration de leurs conditions de détention. À savoir, plus d'une douche par semaine, un accès à l'enseignement et aux livres, la fin de la censure du courrier, la mise en sourdine du racisme des gardiens qui surnomment leur matraque la « nigger stick », le bâton à nègre. Deux événements vont précipiter la situation dans le tragique. La mort d'un gardien qui avait été blessé durant la mutinerie et l'entrée dans la prison de Bobby Seale, figure historique des Black Panthers qui va pousser les détenus à ne faire aucun compromis.
Le dimanche 12 septembre, 500 policiers se massent devant la prison. Les caméras de télévision sont invitées à entrer dans le pénitencier. Elles filment les détenus et leurs otages qui affirment être bien traités. Mais le lendemain matin, la police attaque. Des hélicoptères larguent des lacrymos dans la prison. Des policiers armés tirent sur tout ce qui bouge, otages inclus. On dénombrera 39 morts et plus de 80 blessés.
William Kunstler has said that people are dying in there, and I agree with that. I think that there are people that are dying in there, and the scene is I'm going to cut this off. Whatever happens after the situation here at Attica, a penal system here in the United States and a people who are kept in this out of them will never be the same.
Des gens sont en train de mourir là-dedans. La voix brisée que vous venez d'entendre est celle de John Johnson, journaliste de télévision. Il commente en direct depuis l'extérieur de la prison la tuerie qui se déroule à l'intérieur. L'indignation, pour ne pas dire la colère, la rage, le sentiment d'impuissance, la frustration, le dégoût que provoque autant de violence, autant d'injustice, tout cela bouillonne dans la tête et les doigts d'Archie Shepp. Le saxophoniste américain compose alors Attica Blues, un album brûlant comme un pamphlet.
Shepp n'est pas le seul artiste à avoir exprimé sa rage contre la répression d'Attica. Quelques semaines après l'événement, John Lennon fête son 31e anniversaire à New York avec quelques amis. Ringo Starr, Phil Spector, Eric Clapton, Allen Ginsberg. Ensemble, dans un état second, ils improvisent une espèce de refrain qu'ils hurlent en boucle. Attica State, Attica State. Dès le lendemain de la soirée, John en a écrit les couplets.
Quel gâchis de vies humaines tirées sur des prisonniers, 43 veuves esselées, nous sommes tous des prisonniers d'Attica.
Attica State par le Plastic Ono Band.
Yeah.
Nettement moins festif, le boxeur Mohamed Ali s'est lui aussi indigné du bain de sang d'Attica. On est en juin 1972. Le boxeur est à Dublin pour se battre contre Alvin Lewis, un ancien détenu d'une prison de Détroit. Un journaliste de la télévision irlandaise invite Mohamed Ali à dire sur son plateau ce qu'il ne pourrait raconter à la télévision américaine. Après avoir rappelé l'histoire d'Attica, Mohamed Ali se lance dans la récitation d'un poème qu'il a écrit plein de colère, un poème intitulé « Freedom Better Now ».
Il vaut mieux mourir en se battant pour la liberté qu'en ayant une crise cardiaque ou en faisant une overdose. Je préfère mourir d'être noir.
Better far from all I see, to die fighting to be free, what more fitting end could be. Better surely than in some bed, where in broken health I'm led, lingering until I'm dead. Better than with prayers and pleas, are in the clutch of some disease, wasting slowly by degrees. Better than of heart attack, or some dose of drug I lack, let me die by being black. Better far that I should go, standing here against the foe, is the sweeter death to know. Better than the bloody stain on some highway where I'm lain, torn by flying glass and pain. Better now than later on, now that fear of death is gone, never mind another darn. They opened fire on them, but they died telling it like it was.
Les airs roulés de colère de Mohamed Ali. Autre personnage ayant trait à la révolte d'Attica, Bobby Seale, l'un des deux fondateurs du Black Panthers Party for Self-Defense. Bobby fit partie de la commission d'observateurs autorisée à pénétrer dans l'enceinte d'Attica au moment des négociations. Il exigera que les prisonniers puissent quitter les États-Unis pour se rendre dans des pays communistes, l'Algérie ou Cuba. Quelques années avant, en 1968, Bobby Seale avait été accusé d'avoir fomenté les émeutes de Chicago. Mais il insulta tant et tant le juge que celui-ci le condamna à 4 ans de prison pour outrage à magistrat.
À cette même date, au sein des Black Panthers, un groupe de musiciens avait été monté pour accompagner la révolution d'une bande-son. Le groupe en question s'appelait The Lumpen, en référence au Lumpen Prolétariat, la classe sociale la plus démunie selon Karl Marx. Un groupe composé de 4 militants qui avaient à cœur de politiser leurs auditeurs à travers un groove très intense. Le morceau qui va suivre fut composé alors que Bobby Seale purgeait sa peine. On y dit une chose simple, libérez Bobby Seale qui nous protège de ceux qui nous oppressent depuis 400 ans. Free Bobby now!
Bobby must be set free. We're talking about Bobby. Set the cameras fire.
Allez, c'est l'heure de notre flashback opéra. On quitte les Black Panthers pour les sombres couloirs des cachots lyriques. Il est 15h25, voici la chronique tout en parloir et musique de Romain, tous au violon.
Avis de tempête dans les studios de France Culture. Voici une tragédie totale, une œuvre noire dénonçant les rapports hommes-femmes dans une société russe phallocrate et archaïque. Voici donc Lady Macbeth du district de Densk, l'opéra de Chostakovitch composé en 1934. L'histoire d'une jeune femme qui s'ennuie à mourir dans sa province soviétique auprès d'un mari riche mais impuissant et d'un beau-père tyrannique. Katerina tombe amoureuse de Sergueï, un jeune ouvrier. Et quand on s'aime d'amour physique chez Chostakovitch, on ne fait pas semblant. Katerina fait place nette et assassine son beau-père et son mari avant d'organiser son mariage avec Sergueï. En pleine noce, les policiers découvrent les cadavres en décomposition et les jeunes mariés sont envoyés au bagne. En Sibérie, quelque peu refroidi, Sergueï va s'intéresser d'un peu trop près à une jolie prisonnière. Le sang de psychopathe de Katerina ne fait qu'un tour. Elle se précipite avec son infortuné rival dans la Volga glacée.
Donc en prison pour un double assassinat, ça n'est pas vraiment politique comme détention, Romain.
Non, David, ce qui est politique, c'est l'accueil qui sera réservé à l'opéra par le parti. Katerina est désirante, mais pas au sens passif et éthéré dont l'opéra traitait les femmes jusque-là. Ici, on est explicite. La sombre héroïne rêve de volupté et de puissance. Staline est alerté sur le contenu peu conforme à sa vision de sa famille. Il se rend au Bolchoï et, abasourdi par ce qu'il voit, quitte le théâtre à l'entracte. Un article paraît dans la Pravda, dont Chostakovitch pense que Staline lui-même en est l'auteur. Il y est question d'un opéra de tintamarre, grincement et glapissement, de personnages bestiaux et vulgaires. L'article s'achève par une menace de mort à peine voilée en ces temps de purge. On joue avec l'hermétisme, un jeu qui pourrait mal finir. Chostakovitch devient ainsi officiellement un ennemi du peuple. Lady Macbeth, l'histoire d'une femme qui ose prendre en main son destin, reste interdite en Union soviétique pendant 30 ans, enfermée dans une prison politique et culturelle dont elle ne sort qu'à la fin des années 60, remaniée et édulcorée. On écoute Katerina au bagne, qui cherche un lac sombre comme son âme pour s'y jeter, Maria Ewing et l'orchestre de l'Opéra Bastille, dirigé par Liu Yongchun.
France Culture, la série musicale. David Unger, Romain Boulet.
Et on quitte les goulags de la Sibérie pour le Brésil des années 60.
Si le coup d'état militaire a lieu en 1964, le durcissement le plus radical à l'encontre des libertés individuelles date de 1968. On y suspend purement et simplement la Constitution, le président acquiert les pleins pouvoirs, la censure peut enfin agir librement. À cette même période, le mouvement tropicaliste triomphe dans le pays. Ils sont beaux, elles sont belles, ils inventent un genre à part entière en mêlant poésie et politique, psychédélisme et samba, bossa nova et théâtre cannibale.
Nous sommes en 1969 à un concert de Os Mutantes. Helio Oiticica, un plasticien révolutionnaire, brandit par provocation une banderole représentant un narcotrafiquant tué récemment par la police. Sous sa photo, on peut lire « Soyez marginaux, soyez des héros ». Pendant ce temps, Caetano Veloso et Gilberto Gil s'enroulent dans des drapeaux brésiliens en disant tout le mal qu'ils pensent de leur gouvernement. La police débarque, c'est pour eux le début de 2 mois de prison qui s'achève par 3 longues années d'exil à Londres.
En 1973, de retour au pays, Chico Buarque et Gilberto Gil composent ensemble « Calici », un calice dont le vin est fait de sang, un calice que l'on ne saurait boire.
Invités par le festival de Sao Paulo, ils en livrent les paroles à la censure qui leur interdit de la chanter. Ils entament quand même sur scène la mélodie, qu'ils chantonnent à moitié, sans vraiment en dire les paroles, à l'exception du refrain. Vous entendez là le public et les artistes réagir au fait que les micros sont progressivement coupés par les militaires présents dans la salle.
Allô.
Pour la petite histoire, Calici signifie autant le calice que tais-toi. La chanson dénonce le rôle actif de l'Église auprès des militaires. On peut donc entendre le refrain comme suggérant à l'ecclésiastique « Père, éloigne-toi et tais-toi ». Chico Buarque enregistre la chanson 5 ans plus tard, en 1978. C'est alors qu'elle devient le tube anti-dictature par excellence. Gilberto Gil étant sous contrat chez un autre label, c'est Milton Nascimento qui chante sa partie.
Afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja.
Il y a quelques années, Katia Chornik a monté un projet digital un peu fou. Collecter un maximum de chansons ayant été chantées par des prisonniers politiques chiliens. Ses parents étaient eux-mêmes incarcérés dans une prison qu'on surnommait la discothèque, au cœur de Santiago.
La discothèque, Romain ?
La discothèque, parce que des morceaux y étaient diffusés à fort volume toute la journée, afin de briser psychologiquement les détenus. La musique d'Orange Mécanique, My Sweet Lord, de George Harrison, faisait partie de cette bande originale. Un détenu raconte qu'il savait que ses geôliers venaient le torturer quand il les entendait chanter ça.
Et quand il arrivait, la foule s'écriait.
Mais trêve de plaisanterie, parlons maintenant football. On est en 1973, en pleine qualification pour la Coupe du Monde. Quelques jours après le coup d'état de Pinochet, l'équipe chilienne est à Moscou. Elle fait match nul contre l'équipe du RSS. Le match retour doit avoir lieu à Santiago. On rappelle que sous la dictature chilienne, les stades étaient de vraies prisons à ciel ouvert. Des milliers de citoyens y étaient détenus. L'URSS refuse de se rendre à Santiago. Elle est donc éliminée de la compétition par la FIFA. Mais le Chili ne veut pas en rester là. Par fierté, refusant de gagner le match par forfait, les militaires organisent au stade national un simulacre de match. Un match fictif, un truc comme on n'en a jamais vu. 90 minutes, durant lesquelles seule l'équipe du Chili est présente sur le terrain. 18 000 spectateurs applaudissent dans les gradins. Francisco Valdés marque un but, contre personne donc, qualifiant son équipe.
Et les détenus dans tout ça ?
Et les détenus, eh bien, ils durent quitter le stade quelques jours avant le match. Affamés, assoiffés, ils n'ont aucune idée de la prison où ils se rendent. Ils marchent de longues journées dans le désert. Tout d'un coup, un prisonnier raconte entendre la colonne de femmes entamer une chanson de Violeta Parra. Instantanément, dit-il, les larmes nous sont montées et nous avons eu la chair de poule. Nous nous sommes retournés pour leur envoyer des baisers de la main. Pour ceux qui l'ignorent, Violeta Parra est un monument de la chanson chilienne. Elle mourut en 1967, avant le coup d'État. Mais ses mélodies sont nombreuses à être citées par les prisonniers et les prisonnières, comme les ayant soutenus pendant les violences.
En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que que tuvo que afrontar un trastorno por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Rum rum siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí.
Violeta Parra, Run Run Run, Se fue para el norte. Avec un début anglo-saxon, il est temps qu'on prenne l'avion et qu'on se rende en Irlande.
En Irlande, ou plutôt en Angleterre, Romain. Sale histoire que celle des six de Birmingham. Le 21 novembre 1974, deux bars explosent dans cette ville du cœur de l'Angleterre. 21 morts, 182 blessés. Ce même jour, six jeunes Irlandais quittent Birmingham pour Belfast. Ils doivent assister à l'enterrement d'un copain, un membre de l'armée républicaine irlandaise provisoire. L'homme s'était tué en déclenchant trop tôt une bombe artisanale. Les six jeunes ne révèlent pas tout de suite la raison de leur retour vers Belfast. L'argument sera retenu contre eux lors du procès qui se tient le 9 juin 1975.
Hugh Callahan, Patrick Joseph Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power et John Walker sont condamnés à la perpétuité. L'unique élément à charge est un mensonge fomenté par les experts scientifiques. On aurait retrouvé des traces de poudre sur leurs vêtements. Un journaliste télé œuvre pour leur libération, Chris Mullin. L'homme écrit un livre en 1986 qui fait suffisamment de bruit pour qu'on évoque un nouveau procès. Mais l'appel est rejeté. Les trois années qui suivent voient un nombre impressionnant de pétitions et d'articles qui apportent de nouveaux éléments de l'innocence des six. Le dernier procès a lieu en 1991. On y prouve que la police avait bien falsifié et éliminé un nombre incalculable de preuves. Les six sont libérés après 16 années de détention sous la joie et la clameur du public.
The police told us from the start that they knew we hadn't done it. They told us they didn't care who done it. They told us that we were selected and that they were going to frame us just to keep the people in there happy. That's what it's all about. It's this. Justice. I don't think them people in there have got the intelligence nor the honesty to spell the word. Never mind dispense it. They're rotten.
La police savait que nous n'avions rien fait. Quelques années auparavant, le groupe de Shane McGowan, les Pogues, ont chanté au plus fort de la campagne la chanson qui suit. Elle décrit l'horreur de la prison et le souhait de voir les juges juger à leur tour qu'ils rôtissent en enfer. Du côté de la police comme de la justice, personne ne sera jamais inquiété. Sale histoire que celle des six de Birmingham.
There were six women in Birmingham and Guildford this far. They were picked up and tortured and framed by the law. And the fifth got promotion, but they're still doing time for being Irish in the wrong place and at the wrong time. In Ireland they'll put you away in the maze. In England they'll keep you for 7 days. God help you if ever you caught on these shores. The coppers need someone and they walk through that door. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell. Round the yard in a stinking cell. From wall to wall and back again. A curse on the judges, the covers and screws. The torture, the innocent, wrongly accused. For a price of promotion and justice to sell. Might a judge be their judges when they rot down in hell. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell. So all that bucket again. Made offerings of the emperor, they awaken their birds.
En 1984, le monde entier dénonce l'apartheid, mais ses victimes n'ont pas encore de visage. Ce sera celui d'un homme qui croupit dans la prison de Robben Island depuis 22 ans. Leader de l'ANC, un parti politique qui lutte contre la ségrégation, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il s'appelle Nelson Mandela. Le chanteur de The Specials, un groupe de ska britannique, découvre son histoire lors d'un concert caritatif. Il écrit aussitôt quelques mots simples sur une musique irrésistible.
« Libérez Nelson Mandela, je vous en supplie. 21 ans de détention. Êtes-vous si aveugle que vous ne voyez pas? Êtes-vous si sourd que vous n'entendez pas ?»
On sait que Nelson Mandela entendra, puisqu'il a écrit dans son journal que les disques Madiba, c'est lui, se vendent bien. Un groupe multiracial qui chante Free Nelson Mandela se classe au sommet des hit parades.
La chanson atteint effectivement la 9e position dans les charts britanniques et est surtout un succès clandestin en Afrique du Sud, où elle est diffusée dans les stades de foot grâce à des haut-parleurs dissimulés dans la foule. Dans la foulée, Simple Minds, Stevie Wonder et Johnny Clegg vont s'emparer du cas Mandela, dont la vague de soutien culminera 4 ans plus tard avec l'organisation d'un concert géant pour fêter ses 70 ans. Il faut attendre 1990 pour que les paroles deviennent réalité et que Nelson Mandela soit libéré. Voici donc le morceau par lequel tout a commencé.
Free Nelson Mandela. Free. 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 Free Nelson Mandela.
Thank you.
S'il est des prisons aux hautes murailles, il est aussi des prisons à ciel ouvert, comme celle dans laquelle vivait le pianiste Haïm Ahmad. Yarmouk est un camp de réfugiés palestiniens de la banlieue de Damas, devenu bastion de l'État islamique. La ville fut donc bombardée jour et nuit par l'aviation et l'artillerie du régime de Bachar el-Assad. Il faut imaginer des paysages urbains apocalyptiques, des immeubles qui tiennent à peine debout, et au milieu, Ahmad qui promène son piano. Parmi les ruines, il y jouait des mélodies joyeuses ou tristes avec les habitants et les enfants du quartier.
Aujourd'hui, il est réfugié en Allemagne où il a pu enregistrer son premier album après avoir publié l'histoire de son piano et de son exil. On écoute « Yarmouk misses you »,« Yarmouk te manque ». À propos de la chanson, Ahmad raconte dans son livre « Les gars dans la rue voulaient que je joue pour eux. L'un s'est mis à siffloter « Yarmouk te manque, mon frère ». Ils chantaient tous faux. Je repensais à Mahmoud Tamim qui en avait écrit les paroles et qui devait croupir quelque part en prison. Amère pensée.
يا شعب الغالي يا مهجر بكفي برات تبرمر يلا عودوا يا أحباب بكفينا طال الغياب يا شعب الغالي يا مهجر بكفي برات تبرمر يلا عودوا يا أحباب بكفينا طال الغياب يا أمي والله اشتقنا لك عودوا ضمينا بحنانك يا رفاقي طالت غيبتكم والله اشتقنا لضحكتكم يا امي والله اشتقنا لك عودوا ضمينا بحنانك يا رفاقي طالت غيبتكم والله اشتقنا لضحكتكم سوريا عيونها عم تبكي تسأل ليش تركوني شعبي صفدوا لبيا والجاعون وعن جرحي فطمنوني اليرموك عيونه عم تبكي تسأل ليش تركوني شعبي صفدوا لبيا والجاعون وعن جرحي فطمنوني صامد بسوريا كنا منحبك يا خيا ويلي صامد وين ما كان اليرموك بيحبك يا خيا ويلي صامد وين ما كان اليرموك بيحبك يا خيا يلي صامد بي درعا كلنا منحبك يا خيا ويلي صامد وين ما كان اليرموك بيحبك يا خيا ويلي صامد بدوش لعب اليرموك بيحبك يا خيا ويلي صامد وين ما كان اليرموك بيحبك يا خيا ويلي صامد بسوريا كلنا منحبك يا خيا ويلي صامد باليرموك كلنا منحبك يا خيا اليرموك بيحبك يا خيا اليرموك بيحبك يا خيا
Et comme chaque jour, nous finissons cette émission par une chanson louant la liberté. La liberté pour laquelle se sont battus, parfois jusqu'à la mort, des hommes et des femmes du monde entier depuis la nuit des temps.
La liberté qu'ont encensé les poètes, les romanciers, les cinéastes, parfois même les peintres. Et quand je dis ça, je pense surtout à toi, qui croupis au fond de ta cellule pour une idée dont la noblesse échappe à tes bourreaux. La liberté que chérissaient tant Paul Éluard.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
Philippe Catherine, lui, a trouvé un autre endroit où l'écrire.
Ainsi se referment les portes de cette émission, réalisée par le formidable Olivier Bétard. À la technique, c'était la non moins génialissime Adèle Caglar. On remercie également Antoine Lachant et Clément Perruche pour la page Internet.
Big up tout particulier à Antoine Vuillaux à la documentation musicale. Merci pour leurs conseils à Meyar Alroumi et Simon Bergeau. Cette émission est disponible en podcast et on salue les prisonnières et les prisonniers qui nous ont peut-être écoutés.
On se retrouve demain à 15h pour une spéciale concert en prison.